Voltaire, Dictionnaire philosophique, Babel. Babel signifiait chez les orientaux Dieu le Père, la puissance de Dieu, la porte de Dieu, selon que l'on prononçait ce nom. C'est de là que Babylone fut la ville de Dieu, la ville sainte. Chaque capitale d'un État était la ville de Dieu, la ville sacrée. Les Grecs appelèrent tous Hiérapolis, ayant eu plus de 30 de ce nom. Et la tour de Babel signifiait donc la tour du Père Dieu. Joseph, à la vérité, dit que Babel signifiait confusion. Calmet dit, d'après d'autres, que Bilbar en chaldéen signifie confondu. Mais tous les orientaux sont dans un sentiment contraire. Le mot de confusion serait une étrange origine de la capitale d'un vaste empire. J'aime autant Rabelais qui prétend que Paris fut appelé autrefois Lutèce à cause des blanches cuisses des dames. Quoi qu'il en soit, les commentateurs se sont tous tourmentés pour savoir jusqu'à quelle hauteur les hommes avaient élevé cette fameuse tour de Babel. Saint Jérôme lui donne 20 000 pieds. L'ancien livre juif intitulé Soulut lui en donnait 80 000. Paul Lucas en a vu les restes et sait bien voir, lui, dans ces dimensions. Ces dimensions ne sont pas la seule difficulté qu'on ait exercé les dogmes, qu'est exercé les dogmes. On a voulu savoir comment les enfants de Noé, ayant partagé entre eux les îles des nations, s'établissant dans divers pays dont chacun eut sa langue, ses familles et son peuple particulier, tous les hommes trouvèrent ensuite dans la plaine de Sénahar pour bâtir une tour en 10 ans. Rendons notre nom célèbre avant que nous ayons dispersé dans toute la terre. La Genèse parle des États que les fils de Noé formèrent. On a recherché comment les peuples de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, vivant tous à Sénahar, n'ayant tous qu'une même langage et une même volonté. La Vulgate met le déluge en année du monde 1656 et on place la construction de la tour de Babel en 1771, c'est-à-dire 1500 ans après la dissection du genre humain et pendant la vie même de Noé. Les hommes purent donc multiplier avec une prodigieuse célérité. Tous les ans, renaquirent en bien peu de temps. Si l'on réfléchit au grand nombre de nos métiers différents qu'il faut employer pour élever une tour si haute, on est effrayé d'un si prodigieux ouvrage. Il y a bien plus. Abraham était né, selon la Bible, environ 400 ans avant qu'après le déluge. Et déjà, on voyait une suite de rois puissants en Égypte et en Asie. Bochard et les autres doctes ont beau charger leurs gros livres de systèmes et de mots phéniciens et chaldéens qu'ils n'entendent point. Ils ont beau prendre la Thrace pour la Cappadoce, la Grèce, Crète pour la Grèce, et l'île de Chypre pour Tyre, ils n'en mangent pas moins davantage, ils n'en nagent pas moins davantage dans une mer d'ignorance, sans fond ni rive. Il eût été plus court d'avouer que Dieu nous a donné, après plusieurs siècles, les livres sacrés pour nous rendre plus gens de bien et pour nous faire de nous des géographes, et des chronologistes, et des étymologistes. Babel et Babylone, elle fut fondée, selon les historiens persans, par un prince nommé Tamurat. La seule connaissance qu'on ait de ces antiquités consiste dans les observations astronomiques 1903 ans employées par Callisthène pour ordre d'Alexandre à son précepteur Aristote. À cette certitude se joint une probabilité extrême qui nous est presque égale. C'est qu'une nation qui avait une suite d'observations célestes depuis près de 2000 ans était rassemblée en corps de peuple et formait une puissance considérable plusieurs siècles avant la première observation. Il ne reste qu'aucun des calculs des anciens auteurs profanes ne s'accorde avec nos auteurs sacrés, et que même aucun nom des princes qui régnèrent sur les différentes époques assignées au déluge n'a été connu ni des Égyptiens, ni des Syriens, ni des Babyloniens, ni des Grecs. Il n'est pas moins juriste qui ne soit resté sur la terre chez les auteurs proches, profanes, aucun vestige de la tour de Babel, rien de cette histoire de confusion des langues ne se trouve dans aucun livre. Cette aventure mémorable fut aussi inconnue de l'univers entier que les noms de Noé, de Mathusalem, de Caïn, d'Abel, d'Adam et d'Ève. Cet embarras afflige notre curiosité. Hérodote, qui avait tant voyagé, ne parle ni de Noé, ni de Sem, ni de Révi, ni de Salé, ni de Nemrod. Le nom de Nemrod est inconnu à toute l'Antiquité profane. Il n'y a que quelques Arabes et quelques Persans modernes qui aient fait la mention de Nemrod en falsifiant les livres des Juifs. Il ne nous reste, pour nous conduire dans ces ruines anciennes, que la foi à la Bible, ignorée de toutes les nations de l'univers pendant tant de siècles. Mais, heureusement, c'est un guide infaillible. Hérodote, qui a mêlé trop de fables avec quelques vérités, prétend que de son temps, qui était celui de la plus grande puissance des Perses, souverain de Babylone, toutes les citoyennes de cette ville immense étaient obligées d'aller une fois dans leur vie au temple de Mithila, déesse qu'il croit même qu'Aphrodite ou Vénus, pour se prostituer aux étrangers, et que la loi leur ordonnait de recevoir de l'argent comme un tribut sacré qu'on payait à la déesse. Ce sont des contes de mille et une nuits, semblables à celui qu'Hérodote dit dans la page suivante, que Cyrus partagea le fleuve de l'Inde en 365 canaux qui tous ont leur embouchure dans la mer Caspienne. Que diriez-vous de Mesrailles si nous avait raconté que Charlemagne partagea le Rhin en 360 canaux qui s'en tombent dans la Méditerranée, que toutes les dames de cour étaient obligées d'aller une fois en leur vie se présenter à l'église de Sainte-Geneviève et de se prostituer à tous les passants pour l'argent. Il faut remarquer qu'une telle fable est encore plus absurde dans ce siècle d'exercice où vivait Hérodote qu'elle ne le serait dans celui de Charlemagne. Les Orientaux étaient mille fois plus jaloux que les Francs et les Gaulois. Des femmes de tous les grands seigneurs étaient soigneusement gardées par des eunuques. Cet usage subsistait de temps immémorial. On voit même dans l'histoire juive que lorsque cette petite nation eut, comme les autres, son roi Samuel posant détourné pour conserver son autorité, dit qu'un roi tyrannisera qui prendra la dîme des vignes et des blés pour les donner à des eunuques. Les rois accomplirent cette prédiction. Et il est dit dans le troisième livre des rois que le roi Hakam avait des eunuques. Et dans le quatrième, que Joachim et Sélénard s'en avaient aussi. Il ne s'est trouvé de nos jours qu'un seul homme qui, n'étant pas de son siècle, a voulu justifier la fable d'Hérodote. Cette infamie lui paraît toute simple. Il veut prouver que les princesses babyloniennes se prostituaient par piété au premier venu, parce qu'il est dit dans la Sainte Écriture que les Ammonites faisaient passer leurs enfants par le feu en les présentant à Moloch. Mais cet usage de guerre de quelques hordes barbares, cette superstition de faire passer enfants par les flammes ou même de les brûler sur des bûchers en l'honneur de je ne sais quel Moloch, ces horreurs iroquoises d'un petit peuple infâme ont-elles quelque rapport avec une prostitution si incroyable chez la nation la plus policée et la plus belle de l'univers, de l'Orient connu? Ce qui se passe chez les Iroquois serait-il pas une preuve des usages de la cour d'Espagne de cette France? Il appelle encore en preuve la fête des Lupercales chez les Romains, pendant laquelle, dit-il, des jeunes gens de qualité et des magistrats respectables couraient nus par la ville, un fouet à la main, et frappaient de ce fouet des femmes de qualité qui se présentaient à eux sans rougir, dans l'espérance d'obtenir par là une plus heureuse délivrance. Premièrement, il n'est point dit que les Romains de qualité courussent tout nus. Plus tard, au contraire, dit expressément dans ses demandes sur les Romains, qu'ils étaient couverts de la ceinture en bas. Secondement, il semble à la manière de s'exprimer le défenseur des coutumes infâmes que les dames romaines se troussaient pour recevoir des coups de fouet sur le ventre, ce qui est absolument faux. Troisièmement, cette fête des Lupercales n'a aucun rapport à la prétendue loi de Babylone qui ordonne aux femmes et aux filles du roi, des satrapes et des mages de se vendre, de se prostituer par dévotion aux passants. Et quand on ne connaît ni l'esprit humain, ni les mœurs des nations, quand on a le malheur de s'être borné à compiler des messages de vieux auteurs qui presque tous se contredisent, il faut alors reposer son sentiment avec modestie Il faut savoir douter, secouer la poussière du collège, et jamais ne s'exprimer avec une insolence outrageuse. Hérodote ou Ctésias ou Diodore de Sicile rapportent un fait. Vous l'avez lu en grec. Le fait est vrai. Nous ne dirons rien ici de la confusion des langues arrivée tout à coup pendant la construction de la tour de Babel. C'est un miracle rapporté dans la Sainte Écriture. Nous n'expliquons, nous n'examinons rien. Aucun miracle. Nous croyons d'une foi vive et sincère, comme tous les auteurs du grand ouvrage de l'encyclopédie les ont cru. Nous dirons seulement que la chute de l'Empire romain a produit plus de confusion et plus de langues nouvelles que la chute de la tour de Babel. Depuis le règne d'Auguste jusque vers les temps de Attila, des Clodovic, des Gombeau, pendant 6 siècles, terra eratus labit, la terre connue de tous, nous était une seule langue. On parlait latin de l'Euphrate au Moatas. Les lois sous lesquelles vivaient ces nations étaient écrites en latin et en le grec. Servait d'amusement. Le jargon barbare de chaque province n'était que pour la populace. On plaidait en latin dans les tribunaux de l'Afrique comme à Rome. Un habitant de Cornouailles partait pour l'Asie mineure s'il devait être entendu partout où il passait sur sa route. C'était au moins un rien que la rapacité des Romains avait fait aux hommes. On se trouvait citoyen de toutes les nations de villes sur le Danube comme sur le Guadalquivir. Et aujourd'hui, un bergamasque qui voyage dans les petits cantons de la Suisse dont il n'est séparé que par une montagne a besoin d'interprètes. Comme s'il était à la Chine. C'est un des plus grands fléaux de la vie.